Oui, je vous invite dans le moment de prière qui suivra maintenant ce message à vous exprimer aussi. Et je vais prendre trois versets dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, versets 53 et 8, versets 1 et 2. Très simple. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Ce verset, chacun s'en retourna dans sa maison, je l'ai expérimenté de façon particulière il y a un an de cela, et depuis, j'ai un peu ce message dans mon esprit. Je vous le livre très, très simplement. Chacun retourna dans sa maison. Après quoi? Après toute une période de confrontation, de discussion, d'interrogation. En fait, tout le chapitre 7 fait état de la fête des tabernacles à laquelle Jésus s'est rendu. C'était la fête des tabernacles, et il y a eu un grand tumulte lors de cette fête des tabernacles, tout simplement parce que Jésus était là. Au début, il ne devait pas monter, puis il est monté quand même à la fête, et le sujet de conversation de cette fête, c'était lui. Il était au temple, les pharisiens parlaient de lui, la foule parlait de lui, les huissiers sont venus pour l'arrêter. Et voilà, c'était Jésus. Qui est-il vraiment? Faut-il le condamner? Et il y a eu une dernière altercation, on peut dire, entre les pharisiens eux-mêmes et puis... des prises de position, donc. Et puis après cette dernière altercation entre pharisiens avec cet homme Nicodème qui était déjà venu voir Jésus et qui était quand même lui intéressé vraiment profondément par la personne de Christ, eh bien examine, tu verras que de la Galilée ne sort point de prophète, etc. Et puis chacun s'en retourna dans sa maison. Les temps de fête, en général, font remonter de grandes attentes. Elles donnent lieu à des échanges, à des discussions, à des prises de position, et de là même des énervements, des échauffourées, et en particulier dans les fêtes religieuses. Voilà, parce qu'il y a un grand enjeu qui est là. Et ici, donc, celui qui est là, on peut dire, la raison de la fête est au cœur même de la fête. Parce que, en fait, toutes les fêtes d'Israël, toutes les fêtes d'Israël, de la Pâque jusqu'à la fête des tabernacles, si l'on étudie les Écritures, on s'aperçoit que toutes les fêtes d'Israël parle de Jésus-Christ et de son œuvre. Donc celui qui était ici l'objet de la fête, il était au cœur de la fête. Et c'était de lui dont il était question. Et il y avait beaucoup à dire à son sujet. Et l'attention était donc à son comble. On parle de Jésus, mais Jésus lui-même parle dans cette fête. Puisque au verset 14 du chapitre 7, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Au verset 21, Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Et la conversation se continue. Au verset 28, et Jésus enseignant dans le temple s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Et puis enfin, au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Voilà donc Jésus qui, non seulement est au cœur de l'intérêt, mais qui s'exprime et qui prend position et qui dit ce qu'il est. Il alimente cette intense réflexion à son sujet. Et effectivement, nous devons, chacun d'entre nous, être placés par Jésus, donc devant ce qu'il est, être, nous interroger, être voilà, portés à réfléchir. Et puis, ça peut se faire individuellement, mais souvent ça se fait collectivement, et cela donne donc des moments en particulier où on exprime ce que l'on reçoit de Jésus, on l'écoute, on l'entend parler, on échange à son sujet. Et puis à un moment donné, tout a été dit, tout a été expérimenté, et la fête est finie, et chacun s'en retourne dans sa maison. Chacun repart, rentre chez soi, a engrangé de nouvelles informations, ou peut-être a campé sur ses positions. Ce n'est en tout cas plus le moment de batailler, en quelque sorte. La vie personnelle reprend le dessus, et c'est bien ainsi. Chacun a sa vie personnelle, son cercle de responsabilité, et c'est bien que chacun retourne dans sa maison, mais béni soient ceux qui n'ont pas entendu en vain, ceux qui ont profondément reçu les paroles de Jésus, qui en quelque sorte repartent avec Jésus dans leur maison, puisque le but de Jésus, c'est de venir habiter dans notre maison. Il faut aujourd'hui que j'entre dans ta maison, hein, dit Jésus à Zachée par exemple. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, moi et mon père, et nous souperons avec lui, dit Jésus. Donc bien sûr que le but de la parole, c'est pas que nous retournions dans notre maison vide, dans les mêmes conditions qu'auparavant, mais c'est que nous retournions dans notre maison avec Jésus qui nous accompagne. Mais là, historiquement, ce n'est pas le cas. Chacun retourne dans sa maison. Et alors, c'est suite à une fête, mais ça peut être le cas lors d'événements publics qui ne sont pas nécessairement des fêtes. Une discussion peut s'élever, par exemple, dans l'Église, sur un point de théologie et de doctrine. Et cela est nécessaire que parfois, les questions fondamentales soient reprises, redébattues au sein de l'Église. Et pendant un certain temps, les échanges peuvent monter en intensité, des réunions spéciales peuvent être organisées, des articles écrits, etc. Et puis, chacun retourne dans sa maison. Quelques-uns ont tiré profit de ces débats, et d'autres non, malheureusement. Mais voilà, il y a aussi des événements de la vie qui ont des implications morales et spirituelles, qui peuvent nous surprendre et qui donnent lieu à des discussions serrées parfois. Hein, comme par exemple, c'est cette situation que j'ai vécue il y a un an de cela, avec les obsèques d'un frère en Christ. Mais enfin, la question était justement, est-ce qu'il est vraiment chrétien, etc., avec sa famille. Et ça a donné donc des échanges difficiles, et il fallait vraiment, on peut dire, s'entendre, et voilà. Et puis, donc ça a duré les quelques jours là, avant que la décision soit prise pour les obsèques, et voilà, j'avais des discussions avec les uns et les autres, et puis la décision a été prise, et je m'attendais à continuer, on peut dire, à entretenir des relations avec l'un ou l'autre, reprendre les choses. Alors voilà, j'étais dans cet état d'esprit-là. Et puis, un matin, j'ouvre ma Bible et la parole qui ressort à mes yeux et à mon cœur, c'est celle-là. Et chacun retourna dans sa maison. Alors, en lisant cette parole, j'ai compris. J'ai compris, ce n'est pas la peine d'attendre là prochainement, tout de suite, à nouveau des prolongements et des échanges avec les membres de cette famille. C'est, on peut dire, oui, cette période est finie. Et il n'y aura rien de plus. Et c'est ce qui s'est passé. Alors qu'au contraire, un des membres de la famille voulait vraiment continuer à prendre rendez-vous et parler. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Ça ne s'est pas fait. C'était le moment comme ça. Et je ne me suis pas arrêté à cette parole. J'ai lu la suite. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Que va faire Jésus à la montagne des Oliviers? Il va prier. Chacun retourne dans sa maison, mais Jésus se rend à la montagne des Oliviers. Il va reprendre la communion avec son Père. Il va être dans la méditation, la prière. Et là, tout ce qui, on peut dire, n'a pas pu progresser dans les échanges précédents, eh bien, Jésus va pouvoir reprendre les choses à sa manière, en son temps, dans le calme, après avoir rencontré son Père, après avoir prié, après avoir rétabli la communion, non pas qu'il est que Jésus ait jamais rompu la communion avec son Père, mais après avoir vraiment pu vivre cette relation personnelle avec son Père à la montagne des Oliviers. Et n'oublions pas que pendant toute cette période, en fait, la dernière semaine avant la croix, Jésus, toutes les nuits, allait à la montagne des Oliviers. Toutes les nuits, il y allait. Et en fait, nous sommes centrés, bien sûr, lorsque nous prêchons l'Évangile, sur Gethsémané, sur ce moment où Jésus a vraiment eu cette dernière prière intense, cette agonie pour accepter la volonté de Dieu. Bienvenue. Mais voilà, c'était sa coutume, il est dit. Et je me demande d'ailleurs si Jésus a dormi la dernière semaine avant sa crucifixion. Parce qu'il passait la nuit à la montagne des Oliviers et ce n'est pas fini, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Après avoir repris les choses en main spirituellement dans sa relation avec le Père, le Seigneur revient au temple. Les choses se sont calmées, chacun est retourné dans sa maison, mais maintenant c'est Jésus qui vient, qui s'assit dans le temple et qui se met à nouveau à enseigner, non pas dans la polémique, mais d'une façon construite, systématique, certainement, de la manière dont les Hébreux, les Israélites, devaient comprendre le message de Dieu. Et tout le peuple vint à lui, se mettre à nouveau à son écoute. Là, il y a quelque chose de nouveau qui est possible, qui redémarre sur d'autres bases. Et c'est pourquoi, concernant par exemple cette famille, je me suis dit, ça ne veut pas dire que plus rien ne soit possible envers les membres de la famille en question, mais cela viendra au temps voulu, après que Jésus nous aura placé, m'aura peut-être moi placé dans la prière avec lui, et pour pouvoir apporter à nouveau sa parole. Parce que bien sûr, ici, c'est Jésus qui va à la montagne des Oliviers. Mais je pense que nous, en tant que ses enfants maintenant, ses serviteurs et servantes, eh bien, nous sommes aussi appelés à l'accompagner dans le jardin des Oliviers, à laisser la polémique, à laisser la discussion, à laisser à certains moments tous les échanges donc, de controverses, etc., pour aller retrouver avec notre Seigneur Jésus, pour aller retrouver notre Père Céleste, sa parole, son amour, son Saint-Esprit. Et puis ensuite, nous pouvons revenir vers les gens, revenir parler de lui, revenir instruire concernant son œuvre de grâce. Chacun retourna dans sa maison, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Et alors là, l'enjeu de l'enseignement, il est toujours là. Et va se produire à nouveau une situation où Jésus va être mis en question dans son enseignement. Mais ce n'est plus une réflexion générale, ce n'est plus les grandes discussions au sujet de ce qu'il est, etc. C'est un cas concret. On va amener Jésus à se décider, à se prononcer sur une situation, pas sur une doctrine en général, mais sur une situation concrète. Dans cette situation, qu'est-ce que tu dis ? Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Voilà, ici, on cherche à nouveau à entraîner Jésus dans la polémique, mais voilà, c'est quand même une scène extraordinaire, un temps particulier, quand Jésus ne répond rien, sinon cette parole que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et là, le cœur du problème, il est mis en évidence. Jésus est avant cela. Jésus s'est embaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. S'étant relevé, il leur dit cette parole. Puis, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. J'ai entendu une voix, donc un commentaire, une exégèse de ce passage que j'ai trouvé vraiment remarquable. Qui a écrit avec son doigt deux fois? Alors, il y a sur la muraille Dieu qui a écrit avec son doigt sur la muraille, mais le premier, là où la loi nous est donnée, c'est Dieu qui écrit avec son doigt sur la pierre, sur les tables de pierre. Et là, nous recevons la loi de Dieu. Et cette loi, elle a, ces tables écrites par le doigt de Dieu ont dû être brisées à cause du péché du peuple. Moïse, en descendant de la montagne, a vu le peuple qui s'était corrompu avec ce veau d'or et sa débauche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les tables de la loi. Il a fallu qu'il remonte sur la montagne pour que ces tables soient redonnées et qu'elles puissent faire leur travail de sanctification pour le peuple dont le péché devrait être effacé. Et Jésus est venu pour effacer le péché. Et je crois vraiment qu'en écrivant sur la terre avec son doigt, Jésus renvoie les pharisiens à la table de la loi et leur dit: vous êtes directement vous concernés par cette loi, et que faites-vous vous-même de la loi? Repentez-vous personnellement. Et voilà, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Les plus âgés qui sont les plus conscients. On peut se faire des illusions, peut-être quand on est jeune, concernant notre péché, mais au plus on avance en âge, au plus la réalité de nos fautes nous rejoint. Et nous ne pouvons plus échapper. On prend de plus en plus conscience, en fait, en avançant en âge. Et nous ne pouvons plus échapper à la réalité du péché. Et là, nous sommes obligés de dire: je m'occupe de moi et je laisse à Jésus ceux qui ont péché devant moi. Mais Jésus va résoudre la question de façon parfaite, puisqu'il dit à cette femme: je ne te condamne pas non plus, mais en même temps il la libère de son péché, va et ne pêche plus. C'est la perfection que Jésus veut pour la vie humaine. Ce n'est pas simplement passons par-dessus toutes les fautes des uns et des autres parce que nous sommes tous semblables et donc nous ne pouvons pas nous condamner mutuellement. Non, la loi est ce qu'elle est. Jésus vient prendre sur lui l'iniquité des hommes, en payer les conséquences, mais pour les libérer de la puissance du péché. Va et ne pêche plus, c'est la conclusion de ce passage. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a des moments où effectivement nous ne devons pas refuser d'entrer dans des discussions, des réflexions, des échanges assez serrés au sujet de ce qu'est la vraie foi. Mais en restant sous le contrôle de Jésus et en allant avec lui très vite auprès du Père, devant le Père, dans la prière, pour pouvoir nous dégager de ce qui serait polémique ou controverse stérile, pour revenir sur les choses fondamentales, pour instruire dans la véritable justice de Dieu et amener des situations ou des personnes découvre par la connaissance de la loi et du Fils de Dieu, que des personnes découvrent véritablement la liberté, le pardon, la délivrance, parce que c'est ça le but. Jésus-Christ est vraiment cette lumière venue dans le monde pour éclairer tout homme et pour nous libérer. Donc prions d'être disponibles, comptons sur l'intercession de Jésus, puisqu'il est dit que Jésus est élevé à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Actuellement même, Jésus intercède pour nous à cause de son sacrifice à la croix, et il veut obtenir de notre Père céleste, eh bien, notre purification, notre délivrance. Donc nous pouvons compter sur notre Seigneur que nous ne voyons pas, mais qui est là, donc à désirer et agir pour que nous soyons libres et éclairés totalement dans notre vie. Alors, sachons avoir ces moments d'échange, parfois vigoureux, au sujet de qui est Jésus-Christ, et sachons aussi revenir dans le calme et revenir à laisser le Seigneur, on peut dire, reprendre vraiment les choses en main pour amener son salut, sa grâce, sa paix dans nos vies. Amen.